Chapitre 6. Le même taxi fumant Lucky sur Lucky est venu me chercher le lendemain matin. Et quand il m'a déposé chez Titus Chevron, la décapotable était là. Je m'y attendais, mais c'était quand même un soulagement. Je portais un veston gris, tout ce qu'il y a de banal, que j'avais acheté chez Mason's Menswear. Mon nouveau portefeuille en autruche était en sécurité dans sa poche intérieure, garni des $500 en liquide de Hall. Alors que j'admirais la Ford, Titus m'a rejoint, s'essuyant les mains sur ce qui ressemblait au même chiffon que la veille. « La nuit porte conseil, et je la veux », je lui ai dit. « Un pec !» qu'il m'a répondu. Puis il a pris un air de regret. « Mais elle m'a porté conseil aussi, Monsieur Amberson. Et je crois bien que je vous ai menti quand j'ai dit que ça pourrait se discuter. Vous savez ce que ma femme m'a dit pendant qu'on mangeait nos pancakes au bacon ce matin ? Elle m'a dit « Bill, tu serais un foutu idiot si tu laissais partir cette Sunliner pour moins de 350. » En fait, elle m'a dit que j'étais un foutu idiot de l'avoir affiché à un prix si bas pour commencer. J'ai hoché la tête, comme si je ne m'étais pas attendu à moins. « D'accord, » j'ai dit. Il a paru surpris. « Voici ce que je peux faire, Monsieur Titus. Je peux vous faire un chèque de $350, un bon chèque de la Hometown Trust, vous pouvez les appeler pour vérifier, ou je peux vous donner 300 au comptant tiré de mon portefeuille. Moins de paperasse dans ce cas. Qu'en dites-vous ? » Il a souri, révélant des dents d'une blancheur étonnante. « Ça s'est marchandé là-bas dans le Wisconsin, dites-moi. Si vous montez à 320, je vous mets une vignette autocollante et une plaque valable 14 jours et vous l'emportez. 310. « Oh, me mettez pas au supplice !» a gémi Titus. Mais il était loin d'être au supplice. Il jubilait. « Ajoutez-y une rallonge et on top là. » J'ai tendu la main. « 315. Entendu. Top là. » Cette fois, il m'a serré la patte sans plus se soucier du cambouis. Puis il a désigné le kiosque de vente. Aujourd'hui, la mignonne à queue de cheval lisait « Confidential ». Vous voudrez bien aller régler à la jeune demoiselle qui se trouve être ma fille. Elle va rédiger l'acte de vente. Lorsque vous avez terminé, revenez me voir. Je vous mettrai cette vignette et je rajouterai un plein d'essence. 40 minutes plus tard, j'étais au volant d'une décapotable Ford de 1954 qui désormais m'appartenait et je roulais vers le nord, direction Derry. J'avais appris à conduire sur une voiture normale, donc ce n'était pas un problème. Mais c'était la première voiture que je conduisais avec le levier de vitesse sur la colonne de direction. C'était bizarre au début, mais une fois que je m'y suis habitué, je devrais aussi m'habituer à actionner le commutateur de phare avec le pied gauche, j'ai bien aimé. Et Bill Titus ne m'avait pas menti. La Sunliner mettait la gomme en seconde. À Augusta, je me suis arrêté assez longtemps pour rouler la capote. À Waterville, j'ai déjeuné sur le pouce d'un pain de viande qui m'a coûté 95 cents, tarte aux pommes à la mode comprise. Le Fat Burger paraissait excessivement cher par comparaison. J'ai fredonné avec les Skyliners, les Coasters, les Del Vikings, les Elegants. Le soleil était chaud, la brise hérissait ma nouvelle coupe courte, et l'autoroute, surnommée la 1 mile par minute, d'après les panneaux, était tout à moi. Il me semblait avoir laissé mes doutes de la veille sombrer dans la mare avec mon téléphone portable et ma monnaie futuriste. Je me sentais bien. Jusqu'à ce que je voie Derry. Quelque chose allait mal dans cette ville. Et je pense que je l'ai su dès le début. Quand la 1 mile par minute a pris fin, débouchant sur une 2 voies à l'asphalte rafistolé, j'ai pris la route 7, et à une trentaine de kilomètres au nord de Newport, je suis arrivé en haut d'une côte et j'ai découvert Derry. Tapis sur la rive ouest de la Kenduskeag, sous un nuage de pollution provenant de Dieu sait combien de papeteries et d'usines textiles tournant tout à plein régime. Une artère verte traversait le centre de la ville. De loin, elle ressemblait à une cicatrice. Autour de cette ceinture verte en zigzag, la ville semblait exclusivement grise et noire de suie sous un ciel coloré en jaune pisse par ce qui sortait en bouillonnant de toutes ces énormes cheminées d'usines. J'ai dépassé plusieurs étals de produits agricoles. Les gens qui les tenaient, ou qui se tenaient plantés à côté, et qui m'ont suivi des yeux en bâillant aux corneilles quand je suis passé, ressemblaient plus aux péquenauds consanguins de Délivrance qu'à des agriculteurs du Maine. Comme je dépassais le dernier d'entre eux, produit de la ferme Bowers, un grand chien bâtard a surgi de derrière un empilement de paniers de tomates et m'a pris en chasse, bavant et cherchant à mordre les pneus arrière de ma Sunliner. Il ressemblait à un croisement de bulldog et de corgneau non identifié. Avant de le perdre dans mon rétroviseur, j'ai vu une femme en salopette qui n'avait que la peau sur les os s'approcher de lui et se mettre à le battre avec un morceau de planche. C'était la ville où Harry Dunning avait grandi. Et je l'ai détesté au premier regard. Sans aucune raison concrète. Je l'ai détesté, c'est tout. Le quartier commerçant du centre-ville, encaissé au pied de trois collines escarpées, dégageait une impression de fosse qui vous rendait claustrophobe. Dans la rue, parmi les Plymouth noirs, les Chevrolet marrons et les camions de livraison poussiéreux, la seule tache de couleur et de distraction déplacée, à en juger par la plupart des regards qu'elle attirait, semblait être ma Ford rouge cerise. Un canal, aux parois en béton couvertes de mousse, rempli presque à ras-bord d'une eau noire, traversait le centre-ville. J'ai trouvé une place de parking dans Canal Street et, avec un nickel dans le parc-mètre, me suis offert une heure de temps pour faire des emplettes. J'avais oublié de m'acheter un chapeau à Lisbon Falls et deux ou trois vitrines plus loin, j'ai avisé une boutique appelée Dairy Dress and Everyday et au-dessous, chapellerie la plus chic de tout le centre du Maine. Je doutais qu'elle ait beaucoup de concurrence dans ce domaine. Je m'étais égaré devant le drugstore et me suis arrêté un instant pour examiner l'écriteau apposé en vitrine. D'une certaine manière, cet écriteau résume mieux que toute autre chose l'impression que m'a causé Derry. Cette méfiance hostile, cette atmosphère de violence à peine contenue, bien que j'y sois resté pratiquement 2 mois et que j'y ai détesté pratiquement tout, à l'exception peut-être de 2 ou 3 personnes. L'écriteau disait: le vol à l'étalage n'est ni extra, ni batte, ni chouette. Voler à l'étalage est un crime, passible de poursuite, et je poursuivrai en justice. Norbert Keane, propriétaire. L'homme mince à lunettes et blouse blanche qui me dévisageait derrière sa vitre devait être le Mr. Keane en question. Sa mine ne disait pas: entre donc, inconnu de passage, jeter un coup d'œil et acheter quelque chose si le cœur t'en dit. Prendre peut-être un soda avec une boule de crème glacée. Ses yeux durs et cette bouche maussade disaient: allez-vous-en, y a rien ici pour les gens de votre espèce. Une partie de moi voulait croire que j'affabulais. La majeure partie de moi savait que je n'affabulais pas. En guise d'expérience, je l'ai salué de la main. L'homme en blouse blanche n'a pas levé la sienne en retour. Je me suis avisé que le canal que j'avais vu devait s'enfoncer sous terre et passer directement sous cet insolite centre-ville encaissé, et que je me trouvais pile au-dessus. Mes pieds sentaient toute cette eau cachée qui faisait vibrer le trottoir. C'était une sensation vaguement désagréable, comme si cette petite partie du monde s'était ramollie tout à coup. Il y avait un mannequin en smoking dans la vitrine de Dairy Dress and Everyday. Il portait un monocle et un fanion sportif scolaire dans sa main de plâtre. Le fanion disait: « Les tigres de Derry vont massacrer les béliers de Bangor. » J'avais beau être fan de l'esprit sportif, cette formule m'a frappé par son côté extrême. Battre les béliers de Bangor, d'accord, mais les massacrer? Juste une figure de style, je me suis dit. Et je suis entré. Un employé avec un mètre ruban autour du cou s'est approché. Il était nettement mieux fringué que moi, mais le faible éclairage au plafond lui faisait le teint jaune. J'ai ressenti une absurde envie de lui demander « Pouvez-vous me vendre un joli chapeau en paille pour l'été ou bien dois-je aller me faire foutre ?» Et puis, il a souri, m'a demandé en quoi il pouvait m'être utile, et tout est redevenu presque normal. Il avait l'article souhaité dont j'ai pris possession pour la modique somme de 3,70 $. « Oh, dommage qu'il vous reste si peu de temps pour le porter avant que le temps ne se mette au froid » a-t-il observé. J'ai mis le chapeau sur ma tête et l'ai ajusté devant le miroir près du comptoir. « Ah, peut-être aurons-nous un bel été indien !» D'un geste aimable, et comme en s'excusant, l'homme a incliné mon chapeau dans l'autre sens. De quelques centimètres à peine. Mais j'ai cessé de ressembler à un bouseux en visite à la grande ville pour commencer à ressembler, au plus chic voyageur temporel de tout le centre du Maine. Je l'ai remercié. « Il n'y a pas de quoi, monsieur... »« Amberson, » ai-je dit. Et je lui ai tendu la main. Sa poignée de main était faible, molle, et sa paume comme poudrée de talc. J'ai réprimé l'envie d'essuyer la mienne sur mon veston lorsqu'il l'a relâchée.
« À Derry pour affaire ?»
« Oui. Vous-même, êtes-vous d'ici ?»«
Toujours vécu ici, » m'a-t-il dit.
Il a soupiré comme s'il s'agissait d'un fardeau. Si j'en croyais mes premières impressions, ça devait l'être.
« Dans quelle branche êtes-vous, monsieur Amberson, si je puis me permettre ?»«
L'immobilier. Mais pendant que je suis ici, je pensais essayer de retrouver un ancien copain d'armée, il s'appelle Dunning. » J'ai oublié son prénom, on l'appelait tout le temps Skip. J'avais inventé le Skip, mais c'était vrai que j'ignorais le prénom du père de Harry. Il avait nommé ses frères et sa sœur dans son devoir, mais l'homme au marteau était toujours appelé mon père ou papa.
Je crains de ne pouvoir vous renseigner là-dessus, monsieur.
Maintenant, il paraissait distant. Les affaires étaient faites et même s'il n'y avait pas d'autres clients, il voulait me voir tourner les talons.
Eh bien... « Peut-être pourrez-vous me renseigner sur autre chose. Quel est le meilleur hôtel de la ville ?»«
Je dirais le Derry Townhouse. D'ici, vous retournez dans Kenduskeag Avenue, vous prenez à droite et vous remontez Up Mile Hill jusqu'à Main Street. Oh, vous verrez les lanternes de poste sur la façade. »«
Up Mile Hill. » »«
Oui, monsieur, c'est ainsi que nous appelons cette colline. » « S'il n'y a rien d'autre pour votre service, j'ai affaire dans l'arrière-boutique. » Quand je suis sorti, la lumière avait commencé à se retirer du ciel. Une chose dont je me souviens très bien du temps que j'ai passé à Derry en septembre et octobre 1958, c'est la façon dont le soir semblait toujours tomber de bonne heure. La vitrine suivante était celle du magasin Chasse et Pêche Macken, où la vente d'armes d'automne battait son plein. À l'intérieur, j'ai aperçu deux hommes en train d'examiner des fusils de chasse sous l'œil approbateur d'un vieux vendeur portant une cravate ficelle à l'ancienne assortie à son cou osseux. L'autre côté de Canal Street semblait bordé de bistrots ouvriers, le genre où on pouvait se faire servir une bière et un petit verre de gnôle pour 50 cents et où il n'y avait que de la musique country dans le Rock Ola. Et il y avait là le Happy Nook, le Wishing Well, que les habitués appelaient le Bucket of Blood, apprendrai-je plus tard, le Two Brothers, le Golden Spoke et le Sleepy Silver Dollar. Devant ce dernier, un quatuor de col bleu prenait l'air du soir en examinant ma décapotable. Ils avaient des chopes de bière et des cigarettes. Sur la tête, des guêpettes de tweed et de coton. Et au pied de ces gros godillots de chantier informes et sans couleur que mes lycéens de 2011 appelaient des écrases-merdes. 3 sur 4 portaient des bretelles. Ils m'ont regardé, sans aucune expression sur le visage. J'ai repensé brièvement au chien bâtard qui avait coursé ma voiture en bavant et en claquant des mâchoires, puis j'ai traversé la rue.
« Messieurs, » j'ai dit, « qu'est-ce qu'on sert à la pression là-dedans ?»
Pendant un moment, aucun d'eux ne m'a répondu. Juste à l'instant où je me disais que pas un seul n'allait le faire, celui qui n'avait pas de bretelles a dit « Bud et Mick, quoi d'autre ?»«
Vous êtes pas d'ici ?»«
Wisconsin, » j'ai dit.
« Sacré vénard, » murmura l'un.
« Tard dans l'année pour les touristes, » dit un autre. « Je suis en ville pour affaires, mais je pensais en profiter pour retrouver un ancien copain de service militaire. »
Aucune réponse à ça. Sauf si l'on considère comme une réponse le fait de laisser tomber son mégot de cigarette sur le trottoir, puis de l'éteindre d'un molard de la taille d'une petite huître, comme le fit l'un des hommes. Je ne me suis pas laissé démonter.
Skip Dunning, il s'appelait.
L'un de vous connaîtrait-il un Dunning ?
Pouvez-vous l'accrocher et croire au Père Noël ?
A lâché pas de bretelle.
Je vous demande pardon.
Il a levé les yeux au ciel et grimacé comme un homme à bout de patience devant un individu stupide qui n'a aucun espoir de devenir un jour intelligent.
Derry est rempli de Dunning. N'avez qu'à vérifier dans le foutu annuaire téléphonique.
Il s'est détourné pour rentrer. Sa clique lui a emboîté le pas. Pas de bretelle leur a ouvert la porte, puis s'est tourné vers moi.
Qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, cette Ford ?
V8 ?
Y bloc, je lui ai sorti, en espérant avoir pris le ton de celui qui s'y connaît.
Et ça roule bien ?
Pas mal.
Alors peut-être ben que vous devriez remonter au volant et rouler direct jusqu'en haut de la côte. Il y a quelques bons troquets là-haut.
Serrazzi, c'est pour les prolos.
Pas de bretelle m'a jaugé de ce regard froid auquel je n'ai jamais réussi à m'habituer, tout en ayant fini par ne pas m'attendre à autre chose de la part des habitants de Derry.
Vous vous feriez regarder. Peut-être plus quand les équipes 11h-7h débaucheront de chez Stryer et Boutelier.
Merci, c'est très aimable à vous. La froide évaluation continuait.
Vous sortez de l'œuf, hein ?
Et là-dessus, il est retourné à l'intérieur. Je suis retourné à ma décapotable. Dans cette rue grise, avec l'odeur des fumées industrielles dans l'air et l'après-midi saignant sa couleur de crépuscule, le centre-ville de Derry était à peine plus séduisant qu'une putain morte sur un banc d'église. Je me suis assis au volant, j'ai mis le contact, passé la première, et éprouvé une puissante envie de filer. Retourner à Lisbon Falls, remonter dans le terrier et dire à Al Templeton de trouver un autre gars. Sauf qu'il ne pouvait pas, n'est-ce pas ? Il était à bout de force et presque au bout du rouleau. J'étais, comme on dit en Nouvelle-Angleterre, la dernière cartouche du trappeur. J'ai roulé jusqu'à Main Street, aperçu les lanternes de poste, elles se sont allumées pour la nuit au moment où je les ai repérées, et me suis garé sur le rond-point devant le townhouse. 5 minutes plus tard, j'avais rempli ma fiche et pris ma clé. Mon séjour à Derry avait commencé.